trees are green.
Please evacuate this building. Please evacuate this building.
What a mess for you.
Il faut se retirer les doigts du nez. Oui, c'est obligatoire.
Ouais, on est reçu. Ça m'écoute là-bas ou pas?
Eh hey, oh!
Voix en expansion. Un magazine pour discuter, échanger.
Informer, dénoncer.
Sensibiliser, balancer.
Et mémoriser.
C'est qui d'après vous?
Voix en expansion.
Attention, les voix s'étendent,
s'épandent et s'accroissent,
se développent, augmentent,
se diffusent et se propagent sur le web,
sur les ondes et dans l'espace. Attention, voix.
Voix en expansion.
Un magazine autoconstruit par l'association La Malle aux Libertés.
Ouh, ça c'est de l'information. C'est clair, c'est précis. Je vous tire son chapeau, madame.
Bonjour Bernard.
Eh bien, bonjour Annette.
Alors, bienvenue sur Voix en expansion.
Voix en expansion avec le vent qui souffle.
Qui souffle et qui nous amène les nouvelles des éoliennes.
Oui, des éoliennes qui s'inscrivent dans la droite ligne de la transition énergétique, mais qui ne sont pas sans poser de problèmes selon les endroits où elles sont situées.
Alors, pour comprendre un peu, pour permettre à tous nos auditeurs, et à moi-même d'ailleurs,
de comprendre les éoliennes,
comprendre un peu ce marasme du « oui, c'est bien pourquoi » et « non, c'est pas bien pourquoi ».
Ouais, je sais pas si c'est un marasme, en tout cas, c'est vrai que c'est les éoliennes de Léoncelle, dans les contreforts du plateau du Vercors, sur l'arête donc ouest du plateau du Vercors. Il y a ce sujet, et c'est vrai que nous, quand on voit éolienne, on se dit « ah, enfin de l'énergie propre », mais nos auditeurs doivent savoir, cette énergie n'est peut-être pas si propre que ça. Alors c'est vrai que c'est difficile à mettre les pour, les contre, et se faire un jugement. C'est ce qu'on a voulu faire, Annette ?
Eh bien, on a voulu effectivement permettre aux auditeurs de pouvoir juger d'eux-mêmes grâce aux différents reportages. Il faut préciser tout de même que c'est difficile de limiter dans le temps. Donc en fait, il y aura deux émissions pour avoir un peu tout.
Voilà, donc deux émissions. Une première partie avec la LPO et notre ami Thomas.
Thomas Deana,
donc, qui a bien voulu nous répondre et qui est vraiment un spécialiste de la chauve-souris. Et puis, une deuxième partie, donc, avec, justement, le développeur de projet.
Augustin Pêche.
D'accord.
De la société RES.
RES. Voilà. Alors, on va découvrir un monde qui, peut-être que vous ne connaissez pas. Et c'est, en fait, vraiment pour vous donner un avis. Un avis n'est jamais tranchant. On peut changer d'avis. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. En tout cas, je crois qu'il faut, justement, s'informer et peser les pour et les contre.
Tout à fait.
Voilà. Alors, c'est vrai que notre territoire du Vercors est un lieu déjà un peu en altitude, est un lieu où il y a du vent, un lieu où il y a du soleil, et que les énergies renouvelables pointant leur nez de plus en plus, c'est une vraie révolution, que le parc, et on verra dans la deuxième partie de l'émission, donc mardi prochain, que le parc aussi aborde avec, à bras-le-corps. Voilà. Donc, on va écouter d'abord la LPO, donc la Ligue Protection pour les Oiseaux, mais pas que, Annette. Les mammifères volants qui sont, comme ton serviteur, un peu chauves.
Tout à fait. Alors, Thomas Deana.
Bonjour Thomas, je suis donc avec Thomas Deana de la LPO.
Oui, bonjour.
Bonjour. Vous êtes sur Cré, c'est ça?
Oui, oui, oui. Je suis basé à Cré, où on a un bureau et où travaillent entre autres trois personnes essentiellement sur les chauves-souris.
D'accord. Vous travaillez essentiellement sur les chauves-souris. Alors il y a un nom scientifique pour les chauves-souris, les, parce que des fois on voit dans les rapports, ça s'appelle.
Alors on dit chiroptérologue, qui vient, enfin c'est surtout sur une racine grecque, chiroptère, les chauves-souris en fait. Chiro c'est la main et pter c'est l'aile.
On va essayer de placer ça au scrap, ça va pas être facile.
Donc la LPO, vous êtes représentant de la LPO au travail sur ces chauves-souris. Le Vercors est un lieu donc vraiment typique pour les chauves-souris. Il y a des espèces, j'allais dire endémiques, des espèces protégées. Alors, comment ça se passe?
Le Vercors est un territoire qui est assez important et qui est assez riche en termes de biodiversité. Mm-hmm. D'ailleurs pas que pour les chauves-souris, mais sur ce massif en fait on trouve pas mal d'espèces qui sont présentes du fait qu'il y a un certain nombre d'habitats qui sont assez bien préservés, que ce soit les forêts, que ce soit des zones agricoles avec une agriculture peu intensive qu'on pourrait qualifier de traditionnelle. Donc des habitats qui sont riches à la fois en gîtes avec des vieilles bâtisses, avec des grottes, avec des vieux arbres creux, et aussi des territoires qui sont riches en insectes du fait de cette agriculture plutôt traditionnelle.
Donc la LPO, vous êtes implantée depuis un bon bout de temps et vous répertoriez un petit peu ces espèces, c'est ça?
Alors voilà, on mène des inventaires, des suivis de sites remarquables sur le Vercors, mais aussi surtout le département de la Drôme.
D'accord. Pour nos auditeurs, cette biodiversité, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, serait menacée par alors un nombre d'éoliennes qui n'est peut-être pas encore défini à ce jour, dans un lieu qui est riche en faune et en flore, mais aussi donc en tous ces animaux qui vont peut-être percuter. Comment ça se passe? Quel est l'impact? Qu'est-ce qui se passe en fait?
Là le dossier qui nous préoccupe aujourd'hui, en fait, oui. c'est un projet d'installation d'éoliennes qui compterait au moins 6 machines qui seraient placées sur la commune de Léoncelle. Mmh. Et en fait, sur un lieu particulièrement emblématique, qui est juste à proximité du col de la Bataille, à quelques centaines de mètres de ce col. Donc le col de la Bataille, qui sépare les vallées de la Lyonne vers le Royan et la vallée de la Jarvanne au sud. Et en fait, c'est un site où on a mené pas mal d'opérations de suivi pendant plus de 7 ans. Et où on a observé une diversité assez exceptionnelle en termes de chauves-souris, où on a observé 28 espèces différentes, donc ce qui est très très significatif.
26 espèces différentes.
Même.
Alors attendez, parce que pour moi-même, 26 espèces différentes de chauves-souris.
Alors 28 espèces de chauves-souris 28. Différentes qui ont été observées sur ce site, sachant que en France on a 35 espèces différentes. Mm-hmm. Sur la région Rhône-Alpes et notamment la Drôme, on a 30 espèces connues. Donc on a quasiment toutes les espèces qui sont observées en Rhône-Alpes ou en Drôme qui ont été contactées par différentes méthodes sur le col de la Bataille. Donc ce lieu où juste à côté duquel un industriel a prévu d'installer des éoliennes.
D'accord. Donc prévu d'installer des éoliennes, ça veut dire qu'il y a des courants d'air qui sont intéressants évidemment pour la production d'électricité, mais qui sont intéressants pour diverses espèces. Expliquez-nous un petit peu, donc, monsieur Thomas. Oui, je veux dire, le col de Léoncelle, le col de la Bataille, est un lieu, donc, riche en courant d'air, j'allais dire, et qui est intéressant pour l'industriel, mais aussi qui est intéressant pour la faune. Pourquoi?
Alors, le col de la Bataille, pour un développeur éolien, c'est un endroit qui est tout à fait favorable, parce que c'est un endroit où il y a du vent, qui est assez fort et qui est très, très régulier, c'est-à-dire qu'il y a du vent quasiment tous les jours de l'année. Mmh. Et en fait, l'intérêt de ce site pour la biodiversité, enfin, avec tous les suivis qu'on y a menés depuis plusieurs années, mmh. on s'est aperçu en fait que on est sur une ligne de crête avec un versant nord d'un côté, un versant sud de l'autre, et qu'en fait, cette espèce de transition qui est à la fois thermique et géographique, en fait, attire énormément de faune et notamment les chauves-souris. Il y a cette transition thermique avec un versant qui va être plus chaud que l'autre. On a aussi des courants aériens liés au vent, des placements de masse d'air qui créent des turbulences sur ces lignes de crête. Mmh. Et qui, à certaines périodes, en fait, vont amener des masses d'insectes, notamment des petits papillons ou des...
Ah ouais, les papillons sont vraiment, je crois qu'ils ont pas mal, des papillons.
Ils dans ces turbulences, ils vont être plus faciles d'accès pour des chauves-souris.
D'accord.
Et qui vont, en fait, ces chauves-souris vont utiliser ce secteur comme zone de chasse.
D'accord.
Déjà, donc c'est un endroit qui est très très intéressant pour les chauves-souris pour venir chasser. Et c'est aussi un site où on a observé un phénomène migratoire Car il y a quelques espèces européennes de chauves-souris qui ont un comportement migratoire, c'est-à-dire qu'ils vont, à l'automne et au printemps, effectuer un déplacement en Europe de l'ordre de plusieurs centaines à plusieurs milliers de kilomètres pour gagner des zones d'hibernation ou pour revenir sur leur zone de reproduction.
Mais alors, je ferai la mauvaise foi. On a l'impression que des crêtes dans le Vercors, il y en a quand même d'autres pour les chauves-souris. C'est parce que c'est vraiment caractéristique.
Le Vercors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un territoire qui est particulièrement riche du fait de l'habitat qui sont en relativement bon état. Mmh. Et on a tout un réseau de crêtes, de cols, de versants qui sont particulièrement favorables. Donc c'est vrai que le Vercors, on pourrait dire, il y a peu d'endroits où installer des éoliennes n'aurait pas de conséquences sur la faune et notamment sur les chauves-souris. Après, le col de la Bataille, en fait, est situé plutôt sur la bordure ouest du Vercors, mmh. où on observe justement pas mal de migrations, de populations de chauves-souris, mais aussi d'oiseaux, qui contournent ou vont longer le massif plutôt que de le traverser dans les parties les plus hautes. Donc, le phénomène, il est peut-être un petit peu amplifié sur le col de la Bataille, mais c'est vrai que l'ensemble du massif du Vercors est un haut lieu de la biodiversité, c'est une espèce de réservoir de biodiversité, et c'est vrai que le développement d'activités industrielles qui peut avoir un impact fort sur ces populations animales, en fait, est plutôt inquiétant et pourrait avoir des conséquences assez graves.
D'accord.
Faites un beau voyage, ou comme c'est celui-là, quiconque il a toison, et puis y retourner plein d'usage et raison, vivre entre ses parents, le reste de son âge, quand reverrai-je hélas de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison? Je fumais la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village? Je fumais la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je? Reverrai-je le clos de ma pauvre maison? Qui m'est une province et beaucoup d'avantages. Plus me plaît le séjour qu'on bâtit mes aïeux que des palais romains, le front audacieux. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon Loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit liré que le Mont Palatin, et plus que l'air marin la douce Angevine. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je? J'ai traversé les mers à la force de mes bras, seul contre les dieux, perdu dans les marais, retranché dans une cale et mes vieux tympans percés pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix. Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous de nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix, de nous méfier de nos pas et de toute cette eau qui dort, qui pollue nos chemins, soi-disant pavés d'or. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je?
entendu Ulysse de Ridan. Toujours sur l'émission Des voix en expansion, une émission sur l'éolienne. Et nous sommes encore avec Thomas Dehana de la LPO.
Alors, quelles sont les conséquences en fait? Parce que la chauve-souris vole de nuit, si je me souviens bien, ou peut-être pas que de nuit d'ailleurs, parce que je ne savais pas du tout qu'il y avait 27 espèces. Hein, je découvre. Quelles sont les conséquences en fait? C'est une percussion? Comment ça se passe? Ou c'est les bruits?
Les chauves-souris sont sensibles à l'éolien et notamment aux éoliennes qui sont installées classiquement sur notre territoire, c'est-à-dire des machines assez hautes, hein, qu'on peut avoir des éoliennes qui font plus d'une centaine de mètres de haut, mm-hmm. avec un rotor, enfin avec un diamètre de rotor qui dépasse plusieurs dizaines de mètres. Mm-hmm. Alors ces éoliennes, quand on les voit tourner, on a l'impression que ça tourne pas très vite, mm-hmm. Mais en bout de pale, par exemple, la vitesse atteinte est de l'ordre de 200 km/h, voire un peu plus. Mm-hmm. C'est quelque chose d'extrêmement rapide. Et en fait, les chauves-souris ont tendance déjà à s'approcher de tout ce qui est structure verticale, éléments dans le paysage, surtout des choses un petit peu nouvelles.
D'accord.
Ont tendance à s'en approcher par curiosité. C'est des mammifères qui sont assez intelligents et qui sont assez curieux, mais qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément la capacité d'éviter les pales, qui donc tournent à une vitesse assez importante, notamment à l'extrémité. Donc les chauves-souris, elles ont un sonar pour s'orienter, oui. pour détecter des obstacles ou leurs proies. Mais en fait, c'est un sonar en fait qui fonctionne vraiment devant elles. En fait, elles s'en servent pour sonder l'espace devant elles et elles n'ont pas la capacité forcément de détecter un objet en mouvement qui peut arriver par au-dessus ou par en dessous.
Donc, la LPO, vous avez déjà
percuté par les pales assez facilement.
Ok. Et vous, la LPO, vous avez déjà vu ce type d'accident ou répertorié, j'allais dire, dans d'autres secteurs, la nuisance d'éoliennes sur ces mammifères et oui. sur les oiseaux?
Alors, comme beaucoup d'associations naturalistes et avec des scientifiques, en fait, on a participé, lorsque l'éolien a commencé à se développer, à des suivis sur des éoliennes qui ont été installées. Mm-hmm. Notamment en Drôme, on a travaillé sur un site qui se trouve un petit peu au sud de Cré, où il y a deux éoliennes qui sont installées sur un petit col. Et on a fait un suivi post-installation, donc, où on a recherché s'il y avait des cadavres de chauves-souris et d'oiseaux qui étaient au pied des éoliennes au petit matin. Et on en a trouvé un certain nombre, hein, plus de 40, qui ont été découverts sur une saison, c'est-à-dire sur 5 ou 6 mois de suivi. Et on a fait des tests pour essayer de préciser l'ampleur de cette mortalité, parce que il y a les cadavres qu'on retrouve, mais il y en a un certain nombre qui vont disparaître du fait que il y a des corneilles, il y a des renards,
il y a
des charognards qui vont faire aussi la tournée des éoliennes et qui vont profiter des opportunités de mortalité, et donc qui vont se nourrir des cadavres qui sont au sol. Et puis il y a aussi l'observateur, hein, la personne qui va rechercher les cadavres, qui sera pas forcément efficace à 100%. Et donc on va faire des tests pour vérifier s'il est efficace à 50% ou à 80%. Et grâce à ces tests, on va pouvoir, à partir du nombre de cadavres réellement retrouvés, estimer combien il y a pu y en avoir qui ont été réellement sur le
site.
Et on est arrivé à des chiffres assez impressionnants, hein. Déjà, rien que dans les cadavres réellement trouvés, hein, plus de 40, c'est assez important pour 7 ou 8 espèces différentes. Et ensuite, les estimations ont permis de calculer un chiffre qui serait de l'ordre de 50 à 100 cadavres par éolienne et par an. Donc, quelque chose d'assez alarmant.
Donc, un réel impact qui n'est pas négligeable.
Les chauves-souris, en fait, sont des espèces qui sont fragiles du fait qu'elles se reproduisent peu. Chaque femelle fait un petit par an. Et c'est compensé par une longévité assez importante. Mais voilà, chaque cas de mortalité, en fait, a un impact réel sur une population.
D'accord. Alors, donc, Monsieur Thomas Dehana, on va finir notre entretien. Donc, c'était bien la LPO.
Oui.
Je voulais savoir si vous, par rapport à ces éoliennes qui vont s'établir sur les ancelles, Est-ce qu'il y a une solution d'appoint, un compromis envisageable, ou alors l'idée c'est de proscrire assez dans des lieux comme celui-ci?
La question se pose. Hein. Nous, on a réfléchi et on a essayé de transmettre un peu notre point de vue au plus grand nombre, sachant qu'en fait la LPO Drôme n'est pas opposée systématiquement à l'éolien. Et d'ailleurs, il y a des sites sur le nord de la Drôme, hein, dans le secteur des Champs-Barrants, où il y a des parcs éoliens qui se sont construits et dont on a validé en fait la construction, et on accompagne les développeurs pour mettre en place des mesures pour réduire autant que possible les impacts sur la faune. Mmh. Donc avec un arrêt des machines aux périodes les plus sensibles, avec en amont déjà l'installation des machines le plus loin possible des lisières forestières, enfin tout un tas de mesures qui sont prescrites par des associations au niveau national,
notamment qui sont suivies par les développeurs ou pas,
et la protection des humanitaires, et nous on a accompagné ces développeurs pour que ces mesures soient appliquées de la manière la plus forte possible, et même d'aller au-delà des préconisations au niveau national.
D'accord.
Donc voilà, on a une position qui est dans certains cas le développement de l'industrie de l'éolien industriel est compatible avec un maintien de la biodiversité, mais dans certains cas c'est beaucoup plus compliqué.
D'accord.
Et là on s'y oppose fortement. Et sur le Vercors c'est tout à fait le cas. On pense qu'il pourrait là où des mesures peuvent être appliquées sur d'autres sites, on pense que sur ce site là compte tenu de l'affluence,
la richesse, on a compris,
de souris,
ouais,
et aussi la migration des oiseaux, la présence d'aigles royaux, de vautours.
Alors je ne sais pas si on aura le temps de mettre au montage. Est-ce que les développeurs, lorsque vous donnez des précautions, est-ce que ce sont des précautions d'usage ou ça va être des précautions, j'allais dire, légiférées, que vous allez mettre en place? Vous me dites on peut arrêter une éolienne parce qu'il y a un passage d'oiseaux migrateurs. Est-ce que c'est suivi ou comment c'est engagé par... ça ne peut exister que si c'est suivi. Comment ça se passe en fait?
Parce que alors, ces mesures, elles sont souvent... définie et inscrite dans la réglementation.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, un développeur, au regard de la réglementation, il doit prendre des mesures pour réduire l'impact sur l'environnement et notamment sur la biodiversité. Ensuite, ces mesures-là, elles doivent être calées, elles doivent être définies sur le site en prenant en compte tout le contexte.
Mm-hmm.
Mais ensuite, en termes d'effectivité, enfin de mise en place réelle sur lorsque le parc sera construit et sera mis en fonction, il n'y a pas forcément un contrôle assidu qui est effectué. On sait très bien dans pas mal d'autres domaines, hein, il y a des lois, il y a des règlements qui sont en place, mais qui sont pas forcément appliqués. Faute de moyens de la part des services publics pour
contrôler,
pour contrôler à ce que tout soit bien mis en place et soit bien fonctionnel.
Ok. Alors,
on est encore un peu plus inquiet, hein, parce que si les mesures existent, c'est bien, mais si elles sont pas vraiment mises en place ou alors d'une manière un petit peu trop légère pour gagner un peu de productivité à côté, c'est vrai que c'est problématique.
D'accord. Juste parce que là on va dépasser le temps, mais juste pour nos auditeurs qui ont envie d'approfondir le sujet, j'imagine que vous avez un site internet, on va mettre le lien.
Alors nous avons un site internet, hein, LPO Drôme, hein, assez facile à trouver, je peux vous communiquer.
Il y a le dossier de Léoncel dessus ?
Pardon ?
On a le dossier sur Léoncel, enfin ce que vous venez nous expliquer finalement.
Oui, il y a toutes les informations
sur les chauves-souris.
Il y a le site de Sauvons Léoncel. Il y a un certain nombre de dossiers qui sont disponibles sur cette affaire. Quoi.
Ben, je vous remercie.
Mais de rien.
Ben, merci beaucoup.
Bonne journée à vous, au revoir.
Ouais, au revoir. Ben, merci et puis à la prochaine.
Eh bien, tu vois, Annette, on avait vraiment des spécialistes, hein, avec la LPO. Et c'est riche d'avoir des gens qui s'impliquent et qui s'impliquent avec des grandes connaissances pour protéger l'environnement, pour protéger demain. Donc toujours notre dilemme, éolienne ou pas éolienne, sur... Léoncel. Alors, pour se détendre un peu, Shinesman.
Shinesman, alors c'est Shikantaza.
Ah, t'as trouvé le nom. En tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que ce serait bien d'aller voir la vidéo. Je vais mettre le lien, je suis complètement gaga.
Et on enchaîne après avec Augustin Pêche, donc développeur du projet pour les éoliennes.
Donc, je suis en présence de M. Augustin Pêche et vous êtes l'ingénieur un peu chargé du dossier, là, d'après ce que j'ai compris.
Oui, bonjour, je suis Augustin Pêche, donc ingénieur projet pour la société RES.
Alors, RES, qui veut dire pour nos auditeurs
RES, c'est un acronyme anglais qui veut dire Renewable Energy System.
Alors, en traduction?
En traduction, c'est le système d'énergie renouvelable.
D'accord.
C'est une société qui est issue hein, de la fusion de deux sociétés, une française, EOL, et la société REST, qui est une filiale britannique.
D'accord.
Et, donc, qui est présent en France depuis 1999.
Depuis 1999, est une société qui, donc vous avez parlé d'énergie renouvelable, d'autres énergies que l'éolien ?
Bien sûr, REST donc, est essentiellement concentré effectivement sur le développement de l'énergie renouvelable, éolien d'abord, ensuite également du solaire. En France, notamment, et on a plutôt à l'étranger des campagnes autour du stockage de l'énergie.
Voilà. D'accord. Un parc éolien de combien d'éoliennes pour nos auditeurs ça représente
Alors aujourd'hui en France, reste à développer plus de 300 éoliennes. D'accord. Depuis le milieu des années 90. Et ça fait de nous un des principaux acteurs français du développement des énergies renouvelables. Et ça nous permet, avec ces 300 éoliennes, à la fois d'alimenter 380 000 foyers en énergie durable, propre.
D'accord.
Tout en économisant, en évitant en tout cas l'émission de 120 000 tonnes de CO2 par an.
D'accord. Attention, prenez vos crayons, sachant qu'une éolienne produit. D'accord. Alors, on va un petit peu encore focaliser sur la région, j'allais dire Rhône-Alpes, pour nos auditeurs, vous avez des éoliennes qui tournent ?
Alors oui, bien sûr, on a développé plusieurs parcs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et notamment dans la Drôme, vous pouvez retrouver les éoliennes de Res, je pense, dans la commune de Marsanne.
D'accord.
Qui est située plutôt dans la vallée du Rhône. Mais également, on a d'autres parcs, donc toujours dans la Drôme, on a la Tessonnière, on a Bajouve dans le Puy-de-Dôme, et on a notamment dans l'Ain, l'inauguration du premier parc éolien de l'Ain qui aura lieu en courant 2018, le parc des Monts de l'Ain qui a été développé par notre société.
D'accord. Alors, on a vu que, je vous coupe un petit peu, on a vu que la transition énergétique avec M. Morini, donc responsable développement du durable et toute énergie en ce qui s'agit de la communauté de communes et le parc du Vercors, c'était une nécessité absolue par rapport justement aux contraintes que l'homme est en train de mettre à la nature. Et vous pensez que l'éolien est une réponse par rapport à...
L'éolien est une partie de la réponse, effectivement. De la réponse à un enjeu qui est celui de la transition énergétique. À la fois, bien entendu, il y a besoin de réduire autant que possible nos consommations d'énergie pour avoir le moins d'impact possible sur notre nature, sur l'environnement. Mais il faut également que l'énergie que nous produisons, que nous utilisons, que nous consommons, eh bien, vienne de ressources renouvelables. L'eau, pourquoi pas. Le solaire reste en fait avec des centrales solaires. Et également l'éolien, c'est une réponse. Et notamment à cet enjeu des énergies renouvelables, il est porté aussi par des engagements politiques, avec un objectif qui est celui de la France pour l'année 2030. Hein, donc c'est demain en termes de développement éolien.
Tout à fait, oui.
Il y a un objectif d'avoir 40% des énergies en provenance de l'énergie renouvelable. Donc on est bien sur un enjeu à la fois de société, hein, d'éviter les émissions de CO2, de mobiliser des ressources qui sont renouvelables, et en même temps également il y a un enjeu, celui éventuellement de la réduction de la part du nucléaire en France.
Alors,
c'est des enjeux qui sont posés.
Eh bien, merci donc de tous ces petits détails, monsieur Augustin Pêche. Vous êtes bien donc sur Voix en Expansion et j'ai un chien dehors qui fait quand même de la voix. Donc, on va prendre une petite pause de temps que je rentre le chien. Vous voyez, c'est détendu chez nous. Hein.
C'est bon.
Excusez-moi.
Je vous en prie.
Et où est donc passée grand-mère ? Je l'ai cherchée toute la journée. Je l'avais laissée sur le rocking chair. Il y avait Sevran à la télé. Mais je m'inquiète, son siège est vide. Personne l'a vu dans la maison. A-t-elle été un peu timide pour nous cacher des ambitions? Est-elle partie vers d'autres terres, goûter aux délices des rois? Chercher les jades en montgolfière, mon grand fiston m'a dit, je crois pas. C'est Raoul, mon pitbull, qui l'a trouvée appétissante. C'est Raoul, mon pitbull, il est gentil mais quelle descente. Il aime jouer, il est cool, mais s'il a un petit creux dans le ventre, il te croque dès que tu rentres. C'est Raoul, mon pitbull. Je l'avoue, ça m'a fait drôle d'imaginer un tel carnage. Mais on va pas le mettre en tôle, on s'y fera, y a l'héritage. De toute façon, elle était vieille, et puis elle me battait au Scrabble. Elle avait une tête de charpeille, et ses cadeaux étaient minables. Mais il faut que j'aille prévenir Gisèle, c'était sa mère à elle tout de même. Je crois qu'elle essuie la vaisselle. Attends papa, y a un problème. Y a Raoul, mon pitbull, qui l'a trouvé appétissante. Y a Raoul, mon pitbull. Il est gentil mais quelle descente, il aime jouer, il est cool. Mais s'il a un petit creux dans le ventre, il te croque dès que tu rentres. C'est Raoul, mon pitbull. Ah oui mais là ça devient pénible, si on est plus tranquille chez soi. On va l'emmener dans un chenil et on prendra un chihuahua. Non, le plus grave dans cette affaire, c'est que c'est bientôt l'heure du dîner. Et je sais pas ce qu'on va faire maintenant que ta mère s'est faite bouffer. Va chercher ta petite sœur Anne-Lise, on va aller dans un drive-in. Attends papa, il faut que je te dise. Oh non c'est bon, je crois que je devine. C'est Raoul, ton pitbull, tu l'as trouvé appétissante. C'est Raoul, ton pitbull, il est gentil hein, mais quelle descente. Il aime jouer, il est cool, mais s'il a un petit creux dans le ventre, il te croque dès que tu rentres. C'est Raoul, ton pitbull. Non, c'est Hubert, ton cocker, qui voulait pas se trouver en reste. C'est Hubert, ton cocker, avec Raoul il se déteste. Il voulait rester fier et avoir sa part du gâteau. C'est normal, il a le sang chaud. C'est Hubert, ton cocker. Tiens, voilà que ça sonne à la porte. C'est peut-être à cette heure-ci. C'est peut-être maman, non, elle est morte. C'est la voisine, Madame Petit. Elle dit qu'elle a pendant des heures entendu des cris dramatiques qui lui ont déchiré le cœur et qu'elle voudrait appeler les flics. Mais entrez donc dehors, il gèle, il fait meilleur dans le salon. Pendant qu'on vous sert un cocktail, Raoul sera votre compagnon.
Dans le futur, avec Monsieur Pêche et donc de la société RES qui va réfléchir sur ce projet, éventuellement de Léoncel. Mais on va continuer un petit peu, un petit tour d'horizon sur la région. Donc vous nous disiez qu'il y avait des éoliennes en Drôme provençale. Ces éoliennes tournent depuis combien de temps, Monsieur Pêche?
Alors, à Marsanne, elles ont été développées hein, au début des années 2000.
D'accord.
Et elles tournent depuis, je crois, 2008. Les éoliennes de Marsanne, donc 2007 pour être précis, voilà, elles ont une puissance de 12 mégawatts installée.
Ce sont des éoliennes de quelle hauteur? Quel diamètre?
Des éoliennes de 100 mètres de hauteur.
100 mètres de hauteur?
100 mètres de hauteur bout de pâle, installées dans la forêt communale de Marsanne. Et qui, aujourd'hui d'ailleurs, j'invite tous les Drômois qui le souhaitent à aller visiter
mais,
ce parc.
Mais on ira faire un tour. Justement, est-ce que, alors c'est comme dire à un marchand de couteaux, est-ce que vos couteaux y coupent? Mais est-ce que par rapport à l'étude qui avait été faite initialement et le résultat escompté, alors évidemment peut-être que je ne m'adresse pas à la bonne personne, mais quand même au bout d'un moment il y a un compteur qui tourne, on peut dire qu'il y a une forte, vous pouviez, comment dire, vous pouvez faire une étude qui soit assez précise par rapport au résultat de production électrique. Est-ce que ça c'est possible techniquement?
Oui, tout à fait. Ça l'est de plus en plus, hein, notamment en mettant des mesures qui nous permettent d'avoir des chiffres très précis sur la puissance du vent, leur direction, etc. Aujourd'hui, un exemple, quand je vous dis que RES produit de l'énergie permettant de répondre aux besoins de plusieurs centaines de milliers de foyers français, ce sont des chiffres très très précis. Et il suffit de rentrer dans une éolienne pour voir l'énergie qui est produite. Il y a un compteur en direct qui montre combien d'énergie est injectée directement dans le réseau par l'éolienne en question. Donc, ça, c'est une réalité, c'est une force palpable. D'accord. Aujourd'hui, l'éolien représente 9% de la production énergétique française.
Donc on peut traduire, alors je ne suis pas physicien, mais on peut traduire quand même cette énergie en disant c'est une énergie renouvelable, donc ceci produit moins de CO2, donc on peut traduire en carbone, c'est ce que vous nous aviez dit tout à l'heure. Mais aussi, on peut le traduire...
Peut-être pour être précis, quand on dit renouvelable, de quoi on parle?
D'accord.
Quand même, l'énergie éolienne est 6 fois moins impactante en termes de CO2 que la moyenne du mix énergétique français. Ça, c'est des chiffres de l'ADEME, hein, ce n'est pas des chiffres de RES, c'est des chiffres très concrets.
D'accord.
Plus on développe d'éoliennes, plus on va réduire l'impact d'émissions de CO2 de notre consommation énergétique.
Alors, on verra un petit peu tous les détails un petit peu après. Donc, évidemment, ça produit de l'énergie, l'énergie est revendue, ça crée un capital, des investissements, etc. Je ne suis pas un grand spécialiste non plus de ce projet, de cette question-là. Mais par contre, au niveau local, vous êtes comme toute société, vous payez des impôts, vous payez un bail. Comment ça se fait? Vous partagez un petit peu une petite part de gâteau pour les gens du coin? Comment ça marche?
Alors, c'est un beau gâteau, j'ai envie de dire.
D'accord.
Alors, c'est clair qu'il y a un enjeu, effectivement, pour l'environnement, pour l'énergie. Il y a aussi des ressources fiscales qui vont être prélevées par les communes. Hein. Encore une fois, une étude récente du réseau Amorce hein, indique qu'il faut compter environ 20 000 euros de retombées fiscales par éolienne pour l'ensemble des collectivités locales.
D'accord.
Un chiffre conséquent. Et à ce chiffre, on peut rajouter parfois du foncier, des loyers payés au titre de la mobilisation foncière pour les éoliennes.
Et la mobilisation visuelle, parce que je, là, tout à l'heure, on aura peut-être les gens qui sont contre ce type d'éolienne. Je pense qu'il y a aussi cet impact peut-être visuel. Bien.
Moi, je dis jamais une éolienne, ça se voit, ça c'est sûr.
Mm-hmm. Ah, ça, vous pouvez pas dire le contraire. Hein.
Ah bah oui.
Vous pouvez vendre votre affaire, mais
après,
vous pouvez pas la cacher derrière la banquette de la 4L, comme on dit.
Exactement. Non, une éolienne, ça se voit. Après, nous, notre travail à RES, c'est de faire en sorte que les éoliennes soient le mieux intégrées possible au paysage.
Mmh.
Et notamment, sur un site comme celui de Comblésine, on est vraiment sur une insertion paysagère assez importante, notamment parce que le massif a des volumes très importants et que depuis le Royan, par exemple, les éoliennes ne seront quasiment pas visibles. Hein. Une pale d'éolienne aura la taille d'une tête d'épingle à peu près. Et depuis la vallée du Rhône, de la même manière, les éoliennes ne seront pas visibles, depuis le Vercors non plus. En fait, on va avoir une visibilité qui va être très, très minimaliste, très, très réduite. Et là-dessus, RES, nous, on va produire des photomontages, hein, donc elles seront clairement accessibles pour l'ensemble des populations, pour se rendre compte de l'évolution des paysages et de l'impact ou pas des éoliennes sur ceci. Et notamment, depuis le col de la Bataille, hein, les éoliennes ne seront pas du tout visibles. On va conserver ces paysages intacts au niveau du col de la Bataille.
Alors, on a toutes ces données-là. On a aussi la donnée, j'allais dire, au niveau de la biodiversité. Alors, vous savez que le Vercors est quand même un lieu hautement, un lieu vraiment protégé, mais dans lequel aussi les animaux, notamment les chauves-souris et les oiseaux, viennent dans cet espace naturel parce que justement il est protégé. Une éolienne, on a toujours peur que ça soit un moulin, et dans ce moulin, il peut y avoir, d'après nos amis de la FPO, beaucoup d'impact en ce qui s'agit notamment des chauves-souris. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça? Est-ce que vous avez déjà des expériences autour de ce type d'impact entre les animaux volants, comme la chauve-souris, mais aussi comme les oiseaux, sur les éoliennes?
Alors, nous, on est extrêmement attentifs à tous ces enjeux liés à l'avifaune, liés aux chauves-souris notamment. C'est pour cela qu'on mène des études très poussées. Et sur le site de Comblésine, on est en train de recueillir un certain nombre de données. Hein. Ça fait un an qu'on mène des études sur l'environnement. Ces données, elles nous montrent notamment pour les chauves-souris que 90% des chauves-souris volent à une vitesse de vent inférieure à 5 mètres seconde. 90%. Ça veut dire que si demain on arrête les éoliennes en dessous de 5 mètres seconde, eh bien, on ne va pas impacter ces chauves-souris. Donc ça, c'est des mesures, par exemple, sur les...
Alors, vous, attendez, pour notre auditeur, vous voulez dire que lorsqu'il y a un peu de vent qui ne soit pas forcément exploitable pour vous, quand il commence à y avoir beaucoup de vent, les chauves-souris ne volent pas. Enfin,
les chauves-souris étant de relativement petite taille quand même, hein, quelques dizaines de grammes, dès qu'il y a beaucoup de vent, elles arrêtent de voler. De la même manière, elles volent plutôt à basse altitude. 85% des vols se passent en dessous de 40 mètres. Nous, les éoliennes, les pales devraient arriver à 50 mètres de hauteur. Ça veut dire que ces 85% de chauves-souris, dans tous les cas, ne seront absolument pas impactées. Et pour les 15% restants, eh bien, nous, on va brider les machines pour qu'elles ne commencent à produire qu'à partir d'une certaine vitesse de vent, donc 5 ou 6 mètres secondes, qui va réduire considérablement les impacts.
D'accord. Ok, donc tout le monde entend ça.
C'est un dispositif réellement novateur. Hein.
D'accord.
C'est peut-être pas sur les premiers parcs éoliens qui ont été développés en France, mais c'est bien pour ça qu'on mène des études très poussées aujourd'hui.
D'accord. Donc vous voulez dire que à une certaine... quand le vent est relativement faible et que les chauves-souris peuvent voler, les éoliennes seraient arrêtées.
Exactement. Alors, ça va nous faire perdre un petit peu de production, mais on est prêt à ça, notamment parce qu'il y a besoin d'avoir ce respect des espèces présentes sur le site.
D'accord. Donc ça, comment ça va être respecté? Si jamais, éventuellement, qu'il y a des accords avec les organismes qui protègent, comme la LPO et autres, vous mettez en place un protocole, comment ça fonctionne, en fait?
Alors, dans tous les cas, ça fait qu'il y aura une activation de la machine à partir d'une certaine vitesse de vent.
D'accord.
Ça va être un protocole mécanique. Hein.
D'accord.
Et au-delà de ça, ça va être des éléments qui seront et qui pourront être contrôlés, notamment par les services de l'État, pour s'assurer de la bonne marche de ces dispositifs.
D'accord.
Je tiens à préciser que les éoliennes sont des installations industrielles qui sont extrêmement contrôlées, avec des normes et des réglementations très précises.
Donc cette réglementation spécifique, un peu nouvelle que vous mettriez éventuellement sur les oncelles pourrait être par l'intermédiaire de l'État une qui serait garant justement qu'elle soit respectée.
Exactement.
Est-ce que sur les éoliennes que vous avez à Marsanne ou dans d'autres secteurs de la Drôme, vous pouvez dire qu'il y a un impact sur la faune ou la avifaune ou...
Par exemple, pour prendre le cas de Marsanne, hein, donc le parc est en exploitation depuis 2007, on a réalisé en 2015, 2016 et 2017 du coup un suivi de l'environnement pour voir effectivement s'il y avait eu des modifications par rapport aux études qui ont été réalisées du coup depuis des années 2000 pour voir comment les éoliennes impactaient ou non d'ailleurs le milieu naturel. Donc aujourd'hui on est en train d'avoir la fin de ces études. Et on les attend pour début 2018. Mais pour reprendre un exemple, notamment sur un parc qu'on a développé en Bourgogne, sur un oiseau qui est le Milan Royal, on a fait une étude très très poussée sur l'impact de l'implantation d'éoliennes autour de la nidification du Milan Royal. Et on s'est rendu compte que même la création de nouveaux parcs à 1 km, 1 km et demi de nid de Milan Royal n'impactait pas du tout le fait que cette espèce revienne annuellement sur le site. Et aucun dégât n'a été constaté sur l'espèce. Donc ça, ce sont des suivis que RES produit régulièrement et qui sont bien entendu accessibles
à tous. Alors justement, c'est là où j'en viens un petit peu. Vous nous parliez tout à l'heure de montage photo pour expliquer un petit peu l'impact, d'éventuellement ces études qu'on peut accéder. Donc ça, c'est assez facile. Vous allez nous faire un petit site spécial pour qu'on puisse vous nous donner déjà tous les liens qu'on mettra nous sur notre lien internet de notre radio. Je voulais vous poser une autre question. En ce qui s'agit, donc on va revenir un peu plus sur le projet de l'Oncelle, combien d'éoliennes seraient éventuellement mises en place et quel serait un peu le calendrier au cas où cela fonctionne?
Alors, aujourd'hui, on attend le résultat final des études sur l'environnement et le paysage.
D'accord, là, vous êtes dans la phase d'étude.
Aujourd'hui, on est en phase d'étude. Ça va nous permettre de recueillir des informations assez larges pour travailler à une implantation, à un nombre d'éoliennes qui soit le mieux pour l'insertion paysagère, pour le respect de la vie faune, etc.
D'accord.
On a un site qui a un potentiel de 6 à 10 éoliennes. Donc, nous, on reste sur cette fourchette-là, a priori plutôt sur la fourchette basse de ces chiffres.
D'accord.
Et avec ces 6 à 10 éoliennes, on pourrait alimenter en électricité entre 9 et 12 000 foyers.
9 et 12 000 foyers. Alors, justement, voilà. Alimenter, ça veut dire tirer des câbles. Enfin, moi, je suis plus...
Exactement, bien sûr.
On en est encore là, hein, je crois.
Accordé au réseau.
D'accord. Donc, les câbles, comment ça passe? C'est des lignes de haute tension? Comment ça marche au niveau visuel et...
Alors, tout, les connexions à la fois intra-site, hein, donc entre les éoliennes, au poste source et ensuite au poste de livraison d'Enedis, toutes ces connexions se font par des câbles enterrés. Hein, donc, il n'y a pas de ligne, de nouvelles lignes à haute tension ou de nouvelles lignes électriques.
En abord des éoliennes, ouais.
Voilà. Donc, ce sont des études qui vont être menées par Enedis pour connecter du coup le parc éolien dans la vallée.
D'accord. Eh ben écoutez, je pense qu'on a fait pas mal le tour là, non?
Oui, encore une fois, moi je voudrais insister sur l'enjeu de cette transition énergétique avec les éoliennes de Comblésine. Quand même, sur les 20 premières années d'exploitation du parc, on pourrait avoir une économie en termes de tonnes équivalent pétrole équivalent à 80 000 tonnes, ce qui est quand même quelque chose de conséquent, avec un nombre réduit d'éoliennes, entre 6 et 10 éoliennes. Encore une fois, REST est disponible pour échanger avec les habitants. On anime des réunions publiques, des permanences d'information, et bien entendu, on est là pour répondre à toutes les questions.
Alors, juste peut-être dernière petite question, parce qu'on dépasse toujours le timing. Vous avez comment sont les relations? Je pense qu'elles évoluent. C'était peut-être un peu conflictuel. Est-ce que vous avez eu des endroits où c'était un peu conflictuel, puis finalement, ça s'est avéré que ces éoliennes... est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus, monsieur Pêche?
Bien, effectivement, encore une fois, on parlait de Marsan. Je ne vous cache pas qu'au début des années 2000, quand le projet éolien de Marsan a débuté, il y avait des oppositions dans la commune. Aujourd'hui, le conseil municipal, notamment de Marsan, a délibéré à l'unanimité pour la reprise d'études en vue d'une extension possible de leur parc éolien. Donc je veux dire que il y a souvent des craintes en période de développement une fois que les éoliennes
qui sont notables, hein. C'est vrai que c'est pas un petit engin, hein. C'est quand même c'est pas rien de mettre ça dans la nature. Vous êtes quand même d'accord avec moi?
Eh bien, en tout cas, je peux comprendre qu'il y ait des interrogations et c'est pour ça qu'on est là pour y répondre. C'est
d'accord.
Naturel.
Et ben,
mais encore une fois que les éoliennes sont en exploitation, qu'elles tournent, qu'elles sont présentes, on a essentiellement, voire quasiment, que des échos positifs. Avec même des communes qui nous demandent si on peut étendre les parcs éoliens. Et de la même manière dans le Vercors, hein, le fait de développer ce projet de Comblésine, on a eu des courriers d'habitants qui nous demandaient si on ne pouvait pas développer un projet sur leur terrain, madame.
D'accord, des communes qui demandent. Et justement, ce projet d'éolienne sur le Vercors, on a peut-être d'autres secteurs qui seraient intéressants peut-être pour les développeurs d'éoliennes. Je voulais vous demander une dernière chose peut-être, je ne sais pas si j'aurai le temps de le placer, mais est-ce que vous seriez prêt à organiser, vous en tant que société, un voyage par exemple d'élus ou de gens qui ont envie d'aller voir? C'est pas très loin, Marsan, hein, nous...
Bien sûr, ça fait partie de nos propositions. On a invité déjà l'ensemble des habitants de Léoncelles, donc la commune d'implantation, à un voyage, à une visite du parc de Marsan. Mmh. On renouvelle ces propositions à l'ensemble des habitants du Royan notamment.
D'accord.
Pour nous, il est important que les éoliennes soient vues, soient entendues parfois. Et
oui, on n'en a pas parlé, hein. On n'a pas parlé du sonore, mais d'accord.
Non, mais c'est pour ça, allez voir les éoliennes de Marsan ou sur un autre parc et vous verrez que...
Eh bien, écoutez, si on peut y aller avec en compagnie de votre société, ça peut être intéressant justement pour confronter un petit peu les avis.
Avec plaisir.
Eh bien, je vous remercie et ça fera peut-être l'occasion d'une autre émission. Cette éolienne sur Léoncelles, je suis un petit peu terre à terre, mais à qui ça rapporte vraiment au niveau pécunier? À la commune, la communauté de communes?
À la fois à la commune, hein, à la communauté de communes qui aujourd'hui quand même capte la plupart des retombées fiscales, mais également au département et à la région. Et via ce financement participatif, les habitants pourront également avoir des rétributions, notamment via l'achat d'obligations
ou
le versement de dividendes.
On a dit tout à l'heure qu'on pouvait évaluer la production, on peut évaluer aussi les bénéfices.
Oui, oui, tout à fait. Bah, au moment du dépôt du dossier au niveau des services de l'État, RES produira notamment un business plan avec du coup un taux de rentabilité éventuel pour le parc éolien.
On l'a pas encore, quoi. On ne sait pas exactement le
ça dépendra du nombre d'éoliennes, de la puissance installée. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore défini.
D'accord.
Mais par contre, j'invite bien entendu tous les habitants du Vercors qui souhaitent devenir propriétaires d'un petit bout de pale d'éolienne à nous contacter. RES est disponible là-dessus.
D'accord. Eh bien, je vous remercie et puis à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Tourne, tourne, petit moulin. Tourne, tourne, les moulins. De la transition énergétique, Annette.
De la transition énergétique. Alors, du vent pour créer de l'énergie.
Bon, alors c'est vrai que dans les contres, on peut entendre tout, mais dans les pour, on peut entendre tout. Donc, d'une façon ou d'une autre, cher auditeur, à vous d'écouter cette émission et peut-être de vous renseigner de votre côté. En tout cas, toujours est-il, c'est que je remercie ces deux intervenants de qualité, aussi bien la LPO avec Thomas, hein, Diana, et puis aussi RES, hein, qui est aussi bien sûr un ingénieur spécialiste de son travail. Je voudrais dire aussi que la prochaine émission, Annette, nous allons avoir Monsieur Morini, hein, et aussi eh bien, l'association Sauvons les Oncelles.
Avec Lionel Mazzolini.
Mazzolini. Voilà, ce qui nous permettra aussi d'avoir deux avis, pas forcément contraires, on l'entendra l'émission prochaine. Voilà.
Voilà, donc on a essayé d'être le plus ouvert possible pour vous permettre de comprendre les enjeux.
En tout cas, notre émission est enregistrée grâce à l'énergie produite par notre petite éolienne, mais qui n'a rien à voir avec ces grosses éoliennes, Annette. L'éolienne de basse nature, autoconstruite, et remercie l'association Titeol de Valence. Donc, si vous voulez des renseignements sur les petites éoliennes autoconstruites, n'hésitez pas à venir nous voir à basse nature. Et Agnette, j'en profite pour te dire que cette émission, bien sûr, est faite par les animateurs de la Malle Liberté, qui sont aussi de l'association basse nature. Il faut suivre, mais tout ça bien bénévolement, parce que nous savons tous qu'il n'y a plus de CAE.
Eh ben, on va quand même mettre... Tout va très bien ?
Tout va très bien avec I Want Some. Elle coule à la maison dans sa chute. Elle se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien.
En pleine réflexion pendant cet après-midi, mon stylo fume me permet de transcrire mes cris. Logé au fond de ma montagne, armée lyricalement dénoncer cette pagaille. Corruption, dictature, est-ce que tu l'as compris? Le monde va mal, rempli d'obstacles, sera ta vie. Perché du haut de ma montagne, ma colère gronde au plus profond de mes entrailles. La situation est de plus en plus fragile, des bombes tombent tout le temps sur des civils. Nos terres sont de moins en moins fertiles, on nous divise pour nous rendre plus dociles. Les banques contrôlent l'économie mondiale, elles ruinent des peuples pour toujours plus de capital. Nos politiques favorisent l'évasion fiscale d'une partie de nos entreprises à l'international.
Quand les peuples sont tous en souffrance psychologique, tout va très bien, jusqu'ici tout va bien. Les mensonges incessants des représentants politiques, tout va très bien, jusqu'ici tout va bien. Les catastrophes naturelles, le réchauffement climatique, tout va très bien, jusqu'ici tout va bien. Si le monde est victime d'un modèle économique, tout va très bien, jusqu'ici tout va bien.
L'industrie va casser la planète.
Les méthodes de certains laboratoires sont parfois troubles.
Jusqu'où iront les géants de la grande distribution?
Malgré les scandales à répétition, le business fait sa loi.
À l'aube d'une troisième guerre mondiale, la sentence va tomber, la peine est capitale.
Xénophobes sont leurs actions comportementales.
La pression est si forte,
l'enjeu colossal.
Des points chauds apparaissent de partout sur le globe.
Les relations diplomatiques sont de plus en plus tendues.
Tous veulent se battre pour détenir un monopole.
Le peuple est opprimé, trop d'innocents sont abattu.
Si les malheurs des uns
font le bonheur des autres,
si on peut trouver le bonheur sans tenir compte de ses fautes,
et si les fautes qu'on commet
détruisent la terre qu'on occupe,
si au détriment des terriens c'est du profit dont on se préoccupe,
et si le profit détruisait tout dans ce monde de fous,
et si tout le monde s'en fout et que c'est chacun pour soi,
et si à chaque fois on fait pire chaque jour,
si on court sans le savoir vers la fin de notre parcours.
Quand les peuples sont tous en souffrance psychologique,
tout va très bien, jusqu'ici tout va bien.
Les mensonges incessants des représentants politiques,
tout va très bien,
jusqu'ici tout va bien. Les catastrophes naturelles, le réchauffement climatique, tout va très bien jusqu'ici tout va bien. Si le monde est victime d'un modèle économique, tout va très bien jusqu'ici tout va bien. Tout va très bien jusqu'à ce que les bombes pètent, fusillade à la mitraillette et massacre à la machette. À trop faire la guerre en cachette, on finit par appuyer sur la gâchette. Tout va très bien jusqu'à ce que les banques craquent, en bourse ou pour le contrôle de la monnaie. Serait-ce une arnaque si elles tiennent le monde en lui faisant des prêts? Tout va très bien jusqu'à la claque, quand on s'aperçoit que la météo se détraque. Elle se venge quand on l'attaque, elle nous traque jusqu'à la fin d'un monde qu'on imagine est paradisiaque. Tout va très bien, c'est les méfaits qu'on interprète, c'est une hallucination, c'est notre imagination. Tout va très bien comme force de persuasion, tout va très bien tant que l'homme marche sur la tête. Quand les peuples sont tous en souffrance psychologique, tout va très bien jusqu'ici tout va bien. Les mensonges incessants des représentants politiques, tout va très bien jusqu'ici tout va bien. Les catastrophes naturelles, le réchauffement climatique, tout va très bien jusqu'ici tout va bien. Si le monde est victime d'un modèle économique, tout va très bien jusqu'ici tout va bien.
Jusqu'ici tout va bien, ouais, tout va très bien jusqu'ici.